Voilà, donc notre texte, le texte qui nous occupe ce matin s'inscrit naturellement évidemment à la suite de la paracha précédente, qui est la paracha Miketz. Et on a déjà pu prendre la mesure, je ne sais pas si tout le monde a lu cette paracha, et depuis hier, non ? Donc c'est dans Genèse 44, verset 18, à Genèse 47, verset 27. Mais on ne lira pas la totalité de cette paracha aujourd'hui. Donc on a déjà pu prendre la mesure de ce formidable récit de Joseph, ses mésaventures avec ses frères, et puis aussi les épisodes égyptiens de sa vie. Et on arrive aujourd'hui, en quelque sorte, dans cette paracha, à une sorte de point d'orgue où Joseph se fait reconnaître par ses frères et où va débuter, en réalité, quelque part, le premier exil de la famille de Jacob. Alors, bien entendu, les rabbins ne se sont pas arrêtés à la seule surface du texte, que ce soit des émotions décrites ou même des faits qui sont relatés ici. Et ils ont tenté de décrypter, en quelque sorte, le texte au-delà des mots, cherchant à comprendre la portée plus vaste et plus universelle de cette histoire. Alors, même si vous n'étiez pas là les dernières fois, j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de répéter, et je le redirai encore cette fois-ci, il nous faut jamais perdre de vue que toute la Torah nous prépare à découvrir et à rencontrer le Messie, celui qui va opérer la rédemption du genre humain en son temps. Alors, si nous reprenons l'ensemble de l'histoire de Joseph, qui occupe quand même un quart du livre de Béréchit, hein, ce qui n'est pas rien, on est frappé par la place prépondérante occupée par les rêves de Joseph, comme également d'ailleurs des rêves d'autres personnages autres que Joseph. Alors, dans l'Orient ancien, et dans une certaine mesure encore aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, eh bien, le rêve ou le songe constitue un moyen de choix de la part de Dieu pour révéler son plan prophétique, et ce, quelquefois, bien au-delà de l'immédiateté du récit. On a déjà eu l'occasion de le relever, Joseph est considéré par les sages, donc les rabbanim, comme une figure du Messie à venir. Le judaïsme a donc développé un premier concept qui a été celui du Mashiach ben Yosef, le Messie fils de Joseph. Puis plus tard, s'y est associé celui du Mashiach ben David, donc le Messie fils de David. Le premier a représenté le Messie souffrant pour les péchés du peuple, tandis que le deuxième est le Messie libérateur et glorieux. Et je me permets de préciser à ce stade que David est issu de la lignée de Juda, fils de Jacob, et celui-là même qui tient dans notre paracha un rôle assez étonnant dès même le premier verset. Mais on va y revenir. Depuis quelques chapitres déjà, ce ne sont pas moins de 4 épisodes de rêves dont Joseph est l'auteur ou l'interprète. Il y a bien sûr le récit des gerbes qui se prosternent devant celle de Joseph. Et on comprendra que dans le récit de cette reconnaissance des frères et ensuite de la venue de Jacob et de sa famille en Égypte, eh bien, ce rêve s'accomplit. Sauf qu'il s'accomplit avec un décalage de 25 ans à peu près, ce qui est quand même pas mal. Ensuite vient le récit du soleil et de la lune et des étoiles qui se prosternent, qui est en fait quelque part un peu similaire au premier rêve, sauf qu'il s'y ajoute donc le père et la mère de Joseph. Et on peut supposer d'ailleurs que ce rêve a une portée beaucoup plus lointaine que seulement celle qui pourrait s'appliquer dans le cadre de cette paracha, puisque la mère de Joseph est déjà décédée à ce moment-là et qu'elle ne descend pas en Égypte avec Jacob. Donc il y a là un petit mystère un petit peu, qui nous permet de pointer vers une portée plus lointaine. Et puis, bien sûr, il y a les rêves du panetier et de l'échanson, on en a déjà parlé, et puis les rêves du pharaon, qui va précéder cette période assez singulière de prospérité d'abord, et ensuite de famine suite à la sécheresse. Et il nous faut, à mon avis, un peu garder ces rêves à l'esprit pour suivre le cheminement de cette paracha aujourd'hui. Il n'est pas très difficile de voir doucement s'accomplir les premiers rêves de Joseph, ceux dont j'ai parlé un instant, et de percevoir peut-être en filigrane la perspective prophétique de ceci. C'est du moins ce que certains rabbins pensent décrypter ici est là dans le récit que nous allons lire à présent. Donc Genèse 44, verset 18, on va le lire par morceaux, du moins une partie. Donc Genèse 44, à partir du verset 18. Alors Juda s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. » Tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. » Nous avons répondu à mon Seigneur, « L'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. » Tu as dit à tes serviteurs, « Si votre jeune frère ne descend pas avec nous, avec vous, vous ne reverrez pas ma face. » Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez, achetez un peu de vivres. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. » Intéressant de voir de quelle façon Jacob raconte ou parle finalement de la disparition de son premier fils, fils de Rachel. « Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. » Toujours Judas qui parle, hein. « Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. » On va s'arrêter là dans cette première lecture. On sait que Joseph a mis à l'épreuve ses frères, les testant pour voir s'ils ont fait une véritable teshuva, un retour à Dieu. Souvenez de cet épisode épouvantable de tromperie, où ils ont pris Joseph, l'ont jeté dans une citerne, puis l'ont vendu à des caravaniers, etc. Donc, je veux dire, une histoire épouvantable de tromperie, de mensonge auprès de leur père. Est-ce que quelqu'un peut aller répondre et appuyer sur le bouton 0 puis étoile qui se trouve juste à côté. 0 étoile. Merci. Juste à gauche. Non, c'est tout. Vérifiez quand même qu'il n'y a pas quelqu'un qui monte. Ça a l'air bon. Ok. Donc, vous vous souvenez évidemment de cette histoire assez épouvantable qui s'est produite dans quand même presque 22 ans auparavant, où donc Joseph avait été vendu par ses frères. Donc, c'était un peu le test pour voir si les frères ont changé, si les frères sont revenus de leur attitude, de leurs sentiments et de leurs égarements loin de Dieu et finalement, de leur attitude coupable de cette époque. Dans le stratagème de Joseph, consistant donc à mettre à l'épreuve ses frères, Benjamin, qui est donc son frère de la même mère en plus, est désigné comme coupable. Vous savez, c'est dans la fin de la paracha précédente où Joseph avait mis la coupe qu'il utilisait dans le sac de Benjamin pour justement le rendre coupable, en tout cas dans son jeu. et donc pour finalement mettre à l'épreuve une fois de plus les frères. Donc Benjamin est désigné comme coupable et l'ultime épreuve semble confirmer finalement qu'il y a un revirement des frères qui s'humilient devant Joseph, leur frère. Et c'est là tout le récit que nous venons de lire de Judas. Cependant, au début de cette paracha, c'est Judas qui s'approche de Joseph. On a un peu d'ailleurs bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait une « Bonjour, vous pouvez prendre place ?» Il y a une rupture un peu entre les deux parachutes en plein milieu d'un épisode un peu dramatique, un peu tendu. Et donc Judas s'approche de Joseph. Et Vayigash, qui est le nom de notre paracha, signifie, en fait, c'est le verbe s'avancer ou s'approcher. Plusieurs remarques, d'ailleurs, à propos donc des paroles de Judas. Dans un premier temps, Judas relate tous les épisodes précédents, ce qui est pour nous un bon petit rappel, qui nous permet et de rappeler aussi à Joseph un peu tout ce cheminement. Et Judas ne peut que garder en mémoire, finalement, cette épreuve qu'il vient de vivre. Au sujet de Jacob, il décrit même la crainte de son père, de celui-ci, de perdre ce second fils de Rachel comme il a perdu le premier. Et Jacob, dans la manière d'ailleurs dont Judas relate la manière dont Jacob perçoit la mort de Joseph, il dit, on peut se demander si Jacob a des doutes sur la mort de Joseph. Quand il dit, par exemple, l'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. On peut se demander si Jacob n'a pas là quelques doutes. En tout cas, ces paroles pourraient le laisser entendre, mais il n'en dit rien de façon précise. Au verset 32, Judas montre son engagement auprès de son père, lui qui, avec ses frères, avait pourtant fomenté le meurtre de Joseph. Le voilà prêt, lui, maintenant, à se livrer lui-même à la place de son frère Benjamin, à donner sa vie, finalement, pour lui. Verset 32, « Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable. » Forte expression de Judas. « Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. » Alors, on imagine fort bien l'expression de Judas devant Joseph. Peut-être de l'émotion, il n'a pas dû dire ça juste comme ça, en passant. Ça devait être chargé d'émotion, peut-être une supplication. Non, que moi, je prenne la place de Benjamin et que Benjamin remonte vers son père. Je ne pourrais pas voir mon père dans cette terrible épreuve qui serait la sienne que de perdre Benjamin comme il a perdu Joseph. Et cette fois, Joseph n'y tient plus, la tension est trop forte, et il est à présent certain du changement de vie de ses frères. Et Judas, j'allais dire, est presque le reflet de l'ensemble de la fratrie, comme étant celui qui revient à Dieu. Poursuivons avec Genèse 45, verset 1. Donc c'est la suite directe. « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Et il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Essayons de nous projeter dans cette rencontre entre Joseph et ses frères, qui est chargé d'émotions, de tensions. Et là, maintenant, on en arrive à un peu, en quelque sorte, au dénouement. Joseph se fait connaître par ses frères, ou reconnaître par ses frères, plus exactement. Comment s'y prend-il? Leur parle-t-il ici en araméen, dans leur langue, puisqu'auparavant, en fait, il y avait un interprète, il y avait une certaine distance entre les personnes, puisqu'il y avait un interprète entre les deux. Est-ce que Joseph se rapproche physiquement d'eux pour qu'il puisse le distinguer un peu mieux? Enlève-t-il peut-être certains des éléments de son costume de haut dignitaire égyptien? Prend-il peut-être une autre posture pour se faire reconnaître ? Rien n'est dit dans notre texte de façon formelle. On ne sait pas. Mais ce qui est précisé est quand même significatif. Au verset 1, « Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. » La reconnaissance de Joseph par ses frères se fait dans une certaine intimité, entre hommes de la même famille. Il n'y a pas d'Égyptien à ce moment-là autour, puisqu'il fait sortir tout le monde. Au verset 2, « Il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. » Les Égyptiens ne sont pas des témoins directs de cet événement. Ils entendent parler de cette reconnaissance par, entre guillemets, le bruit des larmes de Joseph, ses sanglots. Étrange quand même de voir cette manière de faire de Joseph et la façon dont les choses sont décrites. C'est pas comme ça qu'on imaginerait une reconnaissance. Je sais pas, quelqu'un qui revoit son frère après 50 ans, 30 ans. Non, bon, il peut y avoir une certaine intimité, mais c'est pas nécessairement comme ça. Comment se fait-il reconnaître ? Il part à l'âge de 17 ans, et là, il en a pratiquement 40. Hein. Donc, il a un peu changé, quand même. Hein. Pas tout à fait le jeune homme d'antan. Donc, il y a quand même quelque chose là qui doit parler. Les Égyptiens connaissaient-ils l'origine de Joseph ? A priori, oui. On sait que la femme de Potiphar le connaissait comme l'esclave hébreu de son mari, dans Genèse 39, 14, et même plus tard, les chansons présentera Joseph au Pharaon comme un jeune hébreu. Chapitre 41, verset 12. Aussi longtemps qu'il est esclave, Joseph est un hébreu en terre étrangère. Quand il accède au trône, il prend le statut d'un égyptien d'adoption. Joseph n'est pas reconnu par ses frères en tant qu'égyptien. D'ailleurs, tout le temps où il était certainement habillé, je ne sais pas comment ils étaient habillés à l'époque, mais bon, ils avaient une autre manière d'être, les Égyptiens, que les Hébreux. Les frères de Joseph n'ont pas reconnu Joseph. Ils ne parlaient pas la même langue en plus. Donc Joseph n'est pas reconnu par ses frères en tant qu'Égyptien, mais par ses larmes versées. Peut-être les mêmes larmes qu'il a versées lorsque ses frères le jetaient dans la citerne. Peut-on reconnaître quelqu'un à la façon de pleurer ? Est-ce que c'est suffisamment distinctif d'une personne à l'autre pour pouvoir se dire, tiens... En tout cas, ici, ce qui est dans le texte mentionné, c'est que il s'est fait reconnaître par ses larmes, par la façon dont il a dû exprimer ses émotions. Finalement, c'est comme Hébreu, fils de Jacob, qu'il se fait reconnaître par ses frères. Les Égyptiens ne peuvent comprendre ce que fait Joseph et seront en quelque sorte tenus à l'écart, ne pouvant eux-mêmes connaître et comprendre le véritable visage de Joseph, fils de Jacob, l'Hébreu. Peut-être même connaissait-il pas la manière dont Joseph avait été jeté dans une citerne. Tout ça, c'était connu uniquement de Joseph. Il n'avait peut-être pas forcément raconté à tout le monde ce qui lui était arrivé. Alors, au-delà de l'émotion compréhensible que suscite cette réconciliation, 22 ans après les faits tragiques du chapitre 37, il nous faut aller plus loin et essayer de comprendre finalement aussi la dimension prophétique de cette réconciliation. Et on a déjà évoqué dans la paracha précédente le caractère prophétique du récit de Joseph et de l'image typologique que représente Joseph du Messie à venir. Pour les rabbanim également, Joseph est une image typologique du Messie. Le Messie Ben Yosef, allusion au Messie souffrant pour la rédemption d'Israël, représente cependant, à mon sens, la première venue du Messie Yeshua il y a 2000 ans, qui effectivement sera livré et mourra pour la rédemption d'Israël. Les Juifs, en son temps, n'ont pas reconnu leur Messie. Tout comme les frères de Joseph, qui n'ont pas su reconnaître leur frère Joseph lors de leur première venue en Égypte pour chercher la nourriture. Dans un second temps, Yeshua, le Messie, sera reconnu par ses frères, non plus comme un homme méprisable et abandonné à la vindicte populaire, mais comme le Messie roi de toute la terre. Joseph est à présent le plus haut dignitaire d'Égypte. Il n'est plus le jeune Hébreu aux rêves étranges que ses frères déconsidéraient. C'est la seconde fois que les frères de Joseph le rencontrent. Cette fois, c'est l'heure de la reconnaissance. C'est toutefois Joseph qui se fait reconnaître. Lui, le second après Pharaon, s'abaisse auprès de ses frères en se faisant reconnaître comme le frère qu'ils ont méprisé la première fois. Au verset 3, on peut être surpris par la question de Joseph. « Mon père vit-il encore ?» Dans la longue explication qui précède, dans le discours de Judas, on comprend aisément que le père de Jacob vit encore. Sinon, il n'y aurait pas... si tel n'avait pas été le cas, en quoi Judas se serait soucié de l'avenir de son père en ne voyant pas revenir Benjamin ? Donc, Jacob est bel et bien vivant. On voit mal non plus l'émotion bouleverser Joseph au point de ne pas saisir l'inutilité de sa question. Pour les rabbanim, la question est peut-être davantage une affirmation qu'une question. Une façon pour Joseph de souligner que Jacob, son père, est toujours là dans son cœur, dans sa vie. En dépit d'une absence prolongée de 22 ans, ce qui est quand même une durée relativement longue, et une plongée dans un pays profondément idolâtre, Joseph reste attaché à la maison de son père et au Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. On peut être aussi surpris par, quelque part, la stupeur des frères de Joseph. Ils ne trouvent rien à répondre. Mais était-il opportun de répondre d'ailleurs ? Et pour dire quoi ? On est dans la charge émotionnelle. À dire la vérité, ils sont en quelque sorte projetés d'un seul coup 22 ans en arrière. Ils se revoient jeter leur frère dans la citerne, vendre un peu plus tard Joseph comme esclave à des étrangers. Ils pensaient que tout cela était de l'histoire ancienne. Oui, certes, ils avaient peut-être regretté la mort de leur frère. Mais il ne pensait pas qu'il le reverrait, et en tout cas pas comme chef d'Égypte. Donc ils sont là, ils ne savent plus quoi dire, saisis de stupeur. Plus encore que l'ignominie de leur acte, n'était-ce pas livrer leur frère à devenir idolâtre lui-même, loin de la maison de leur père, de son père ? Abandonner Joseph et être vendu à des Ismaélites pouvait conduire effectivement Joseph à l'idolâtrie, ce qui était pire peut-être encore que la mort. Lorsque le Messie Yeshua reviendra et qu'il se fera reconnaître par ses frères juifs, ils seront tout aussi pris de stupeur, et à l'instar des frères de Joseph, ils ne sauront prononcer un mot. Le prophète Zacharie le dit fort à propos dans Zacharie 12:10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils ne font pas un long discours ensuite, non. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Celui qu'ils reconnaîtront et qui sera le Machiar ben David, ils le reconnaîtront comme celui qu'ils ont percé. Et ils seront quelque part projetés d'un seul coup très longtemps en arrière, se souvenant de ce qui s'est passé. Mais poursuivons, chapitre 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. » Ici, on a la version seconde. « Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Joseph fait approcher ses frères. Jusque-là, peut-être qu'ils n'avaient pas bougé. Non seulement ils étaient pris de stupeur, mais ils n'ont pas bougé de leur place. Quoi de plus normal, finalement, pour des frères de s'approcher les uns des autres ? Psaume 133 nous le rappelle admirablement pour souligner la force de l'unité. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous connaissez ce passage. Joseph a, je pense, préparé ce moment et savait ce qu'il fallait dire pour amener ses frères à transformer leur vision des choses et des événements. Certes, les frères ne sont pas moins coupables de leurs actions passées. Ce n'est pas leur culpabilité qui est d'un seul coup balayée en disant « Tiens, Dieu avait finalement un plan. » Ils ne sont pas moins coupables. Même si Dieu reste souverain et sait s'adapter aux circonstances pour accomplir ses plans, il nous apparaît à nous qui sommes sur le terrain que bien souvent, les choses nous échappent. C'est seulement après coup que parfois on se dit « Ah mais oui, bien sûr. » Mais on ne l'avait pas vu. Ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés. Deux expressions qui montrent bien qu'au-delà des circonstances passées, Dieu avait bien un plan qui dépassait leur contingence. L'heure n'est plus à l'affliction, mais à la réjouissance. Pour le salut qui s'opère à présent pour la famille d'Israël. Certes, ils ont vendu leurs frères. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à cette histoire. Vous vous êtes repentis, vous êtes revenus à Dieu, ils ont fait Teshuva et les voilà maintenant réconciliés avec leurs frères et c'est le lieu et c'est le moment de la réjouissance. Qui plus est, une réjouissance d'autant plus importante que Joseph va être l'instrument de leur salut puisque la famine est devant durer, il va pouvoir pourvoir à leur salut, à leurs besoins. Le verset 7 contient un terme très intéressant. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. » Ça, c'est ce que nous avons dans la version seconde. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres versions, si c'est un peu différent, mais quelque chose un peu analogue. Mais le mot en hébreu « she'erit » est dans la version seconde plutôt mal traduit, à mon avis. « Joseph est envoyé pour assurer un reste. »« She'erit » en hébreu, c'est un reste. Un reste, ce terme se retrouvera ailleurs comme une notion de salut accordé aux Israélites en tout temps. Le salut d'Israël passe par un reste. Dans la perspective prophétique, le salut est assuré par le Messie Ben Yosef pour assurer un reste à Israël. Décrit aussi comme une grande délivrance. Or, si dans le cas présent, toute la famille de Jacob, sans exception, est préservée de la famine, qui sévit encore plusieurs années, on ne pourra pas en dire autant de tout le peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte, par exemple, et pas davantage encore lors de la première venue du Messie. Tous ne sont pas sauvés, mais la délivrance exceptionnelle, ici évoquée, a une résonance dans le futur qui dépasse le salut de quelques-uns seulement, comme en témoigne par exemple la parole de Paul aux Romains au chapitre 11, que peut-être vous connaissez. Par ailleurs, notons que le rabbi Yeshaya Horowitz, dans son commentaire le Shneluchot Habrit, ce qui signifie les deux tables de l'Alliance, il se propose, sur la base du verset 5, de comprendre la parole de Joseph comme annonçant d'une part l'événement futur du royaume de Juda, et celui-ci sera établi effectivement plus tard, constitué finalement d'une partie seulement des Israélites restés fidèles après le schisme. Et il évoque dans un second temps l'établissement du royaume messianique sous la férule du Messie Ben David. À ses yeux, c'est bien la notion de reste qui prévaut dans la perspective prophétique qu'il propose. David Saada, qui est un autre commentateur, mais encore d'aujourd'hui, ajoute que Juda, qui au début de cette paracha s'approche de Joseph en premier, est en quelque sorte le porte-parole de ses frères et symbolise la réconciliation totale de la famille. Il ajoute avec pertinence que Juda et Joseph représentent les lignées des deux messies. Le messie Ben Yosef, sûr, Joseph, et le Messie Ben David, issu de Judas. Or, il fait remarquer que cette réunion des deux frères est marquée par l'harmonie des deux qui n'en forment en quelque sorte plus qu'un seul. La Haftara, qui est donc le texte des prophètes associé à notre paracha, est du reste aussi très révélatrice. Il s'agit d'Ézéchiel 37, versets 15 à 28, qu'on va lire. Ce passage intervient juste après l'évocation de cette formidable vision des ossements qui se réunissent pour former un peuple revenant à la vie. Vous connaissez ce passage d'Ézéchiel 37, un passage en général très connu parce que c'est impressionnant de voir cette vision d'Ézéchiel de ces ossements desséchés qui reviennent à la vie. Verset 15, donc Ézéchiel 37, verset 15. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus « Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus « Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre, l'une et l'autre, pour en former une seule pièce en sorte qu'elles soient unies dans ta main. » Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? » Réponds-leur « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. » Et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur, un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères, ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux, je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Alors, je ne pense pas qu'il faille un long commentaire sur ce texte. Cette vision prophétique d'Ézéchiel annonce le temps et l'établissement du royaume messianique. Tout y est. D'abord, la réconciliation des deux frères ennemis, Judas et Joseph, une fois de plus. Le rassemblement des exilés des quatre coins de la terre. L'union sous la bannière d'un seul chef, le roi Messie, fils de David. L'alliance éternelle, thématique d'Ézéchiel, déjà dans les chapitres précédents, et que l'on retrouve en première occurrence dans l'alliance de Pinchas, ou Phinéas en français, dans le chapitre 25 du livre des Nombres. Un épisode très intéressant de voir comment Dieu établit prophétiquement son salut par la mort de son Mashiach. Alors certains évoquent par ailleurs Éphraïm comme un symbole des croyants parmi les nations. Une autre façon de suggérer l'union des frères parmi les Juifs et de ceux parmi les nations, sous une seule et même bannière messianique. une réconciliation entre ses frères étant sans doute à ce jour peut-être plus pertinente que celle entre juifs de différentes tribus, surtout qu'aujourd'hui on ne peut plus clairement identifier de quelle tribu on peut faire partie. Donc un texte très intéressant dans cette Haftara qui nous relie à la perspective prophétique que l'on retrouve dans notre paracha. Mais on va poursuivre au verset 9, toujours du chapitre 45. Joseph parle. « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Voilà encore une parole de Joseph. Il a un plan, faire venir sa famille pour la préserver de la famine. Et il donne des arguments à ses frères pour raconter à Jacob qui il est maintenant et comment il peut effectivement trouver le salut en terre étrangère, en Égypte. Et puis, bien sûr, il y a ce déferlement, ce débordement plutôt d'émotions, de larmes, avec Benjamin, qui est peut-être celui qui est le plus à même de le reconnaître, son frère le plus proche, puisqu'ils ont la même mère, donc ils doivent se ressembler. Benjamin ne pouvait pas se tromper en voyant son frère et se dire « Non, c'est un autre. » Non, c'est bien Joseph. Et puis, bien sûr, pas seulement avec Benjamin, mais tous ses frères, et ils pleurent, et ils sont ensemble. Enfin, on peut imaginer cette réconciliation familiale assez émouvante. On n'est plus dans la suspicion, mais dans de grands élans d'affection et de partage. Poursuivons verset 16. « Le bruit se répandit. » Évidemment, tout cela, ça fait du bruit. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. » Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, selon l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 sicles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres, pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères, qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Alors, toute cette réconciliation familiale s'est en définitive déroulée dans une certaine intimité. S'imaginer cela dans un grand hall de la maison de Joseph, en tout cas loin du cercle des Égyptiens. Les Égyptiens, j'allais dire les non-juifs, ne sont pas témoins, des témoins directs de cette réconciliation. Ils en sont seulement quelque part, ils en entendent le bruit, l'écho. Faut-il alors en déduire que la reconnaissance du Messie par les Juifs se fera dans un cercle strictement juif? C'est pas sûr, pas certain, mais pas non plus impossible. Cependant, c'est dans un contexte spécifiquement familial. Entendez par là la famille d'Israël que cela se produira. non dans une atmosphère païenne. On règle en quelque sorte cette affaire en famille, dans une certaine pudeur. L'écho qui parvient cependant au pharaon semble positif et réjouit le cœur du roi, qui s'empresse de prendre des dispositions pour installer Jacob et sa famille dans la meilleure partie de l'Égypte, dans un coin à part. À ce stade, il y a lieu de se poser quand même quelques questions, surtout dans la perspective prophétique qui se dessine en filigrane. Première question, certes, la famine va durer encore quelques années, 5 années, je crois. Et il semble plus pratique de se trouver au plus près de la source d'approvisionnement en nourriture. Mais ce n'était pas une obligation absolue. Quelques jours de caravane séparent seulement l'Égypte de Canaan. Allez, tout au plus peut-être une dizaine de jours. On aurait pu imaginer un moyen de ravitaillement qui évite à Israël, en définitive, d'aller se mêler aux idolâtres égyptiens. Deuxième question. L'Égypte est d'une certaine façon le plus grand pays idolâtre de la région, et même tout ce qui était connu à l'époque. Les frères de Joseph peuvent craindre, comme Jacob d'ailleurs du reste plus tard, de mauvaises influences sur leur famille en restant en Égypte plus que nécessaire. Enfin, troisième élément, comment se préserver en Égypte de la tentation des idoles ? Joseph y a sans doute pensé et il préfère attribuer finalement un territoire séparé des Égyptiens pour protéger sa famille. Dans les échanges en vue de préparer ce déménagement, en quelque sorte, Joseph ne perd pas de vue que ses frères, même s'ils ont bien changé, il est vrai, sont susceptibles de ramener sur le tapis leur querelle d'il y a 22 ans à son sujet. Aussi, la recommandation du verset 24 n'est sans doute pas inutile quand il dit « Ne vous querellez pas en chemin ». C'est que le chemin prend quand même quelque temps, et c'est pas un TGV, et ils ont peut-être le temps de réfléchir, de se dire « Mince, on était parti dans une situation catastrophique, et maintenant, les choses ont tourné dans un sens totalement inattendu ». Mais terminons ce chapitre 45, verset 25. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Et ils lui dirent, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Imaginez un peu la façon de le déclarer, de le dire. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Terrible. Et ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyé pour le transporter. C'est alors, c'est intéressant de voir comment, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Alors au verset 26, nous avons en français, le cœur de Jacob resta froid. Parce que vous avez comme dans vos versions quelque chose d'assez similaire. En fait, c'est le même terme qui, en hébreu, signifie un cœur de pierre. À différence d'un cœur de chair, cœur de pierre. Et le verbe employé, yafag, en hébreu, signifie en quelque sorte un arrêt de la maturation d'un fruit. Donc, quand un fruit est bloqué dans sa maturation, parce qu'il fait trop froid ou autre, pas de soleil, eh bien, on utilise le même terme que le fait que Jacob ait un cœur froid, refroidi, comme si c'était arrêté, figé. Ainsi, le cœur de Jacob est resté figé, comme dans un congélateur, on peut dire presque, durant ces 22 dernières années. Il ne croit plus ses fils aussi facilement. Craint-il d'être une fois de plus floué ou trompé ? C'est possible, c'est qu'il commence à connaître un peu ses fils maintenant. Alors, il est difficile d'imaginer les sentiments du patriarche. Perdre un enfant dans des circonstances troubles, ne jamais être totalement certain de sa mort, et soupçonner peut-être même ses fils d'être quelque part responsable de sa disparition, ce n'est pas facile. Vivre dans l'incertitude. La reconnaissance du Messie Yeshua par les Juifs n'est pas chose simple. Même aujourd'hui, et le sentiment de tromperie, les persécutions faites depuis des siècles en ce nom-là. Bref, Tout est là pour empêcher cette reconnaissance, cette acceptation du fait que Yeshua, ou que ici Joseph, est bel et bien vivant. Curieusement, lorsque Jacob voit les chars du Pharaon envoyés par Joseph pour le transporter en Égypte, il change d'avis et reconnaît que Joseph vit encore. La façon dont c'est formulé est assez étrange. N'est-ce pas un peu surprenant que Jacob, qui ne croit plus en ses fils, quand il voit les chars, se dit « Ah, putain, il y a peut-être quelque chose quand même. » Il semble qu'il faut bien peu de choses pour le convaincre. C'est d'autant plus surprenant que le cœur de Jacob reprend vie. Littéralement, il revient à la vie. En hébreu, c'est bien cette expression-là. Et Rashi, donc un commentateur du Moyen-Âge, et quelques autres commentateurs, d'ailleurs, fondent une relation entre la proximité des termes les chars de Pharaon, c'est-à-dire les analot, analot, anal, c'est un char, mais un char au sens de transport, comme ça, et la génisse, qui est un terme qui est assez proche phonétiquement, mais la génisse qui est sacrifiée dans la paracha Shoftim pour expier le crime d'un homme qui serait trouvé mort comme ça dans la campagne, dont on ne connaîtrait pas l'auteur. Et pour le commentateur, cet épisode avec la génisse était la dernière étude faite par Joseph avec son père avant qu'ils soient séparés. Alors, voyant les chariots, Jacob comprit en quelque sorte le message codé de son fils et se laissa donc convaincre de descendre en Égypte, retrouver son fils chéri. Évidemment, ça, c'est les commentateurs qui le disent. Quoi que l'on en pense, d'ailleurs, de cette proposition un petit peu alambiquée, il faut bien en convenir, Jacob sera confirmé par la suite dans son intuition. Chapitre 46, verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et offrit là des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. Là encore, un rêve. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Le récit n'est pas encore tout à fait terminé, et sur le plan prophétique, on est surpris de constater que le salut d'Israël se produit hors de la terre d'Israël. Pour Jacob, cette migration vers l'Égypte sera, il le sait de son grand-père d'ailleurs, hein, Abraham, bien plus longue que seulement quelques années. À la vérité, 400 ans, de bien longues années qui vont finir de transformer la famille en peuple. La plus grande des responsabilités de Jacob sera maintenant, avant sa mort, d'assurer la transmission de l'Alliance à la génération future, et ce, dans un contexte de galoute, c'est-à-dire d'exil. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas seulement un rôle essentiel pour préserver sa famille de l'idolâtrie ambiante. Il comprend sans doute aussi que son rôle est de féconder, quelque part, rayonner de son message divin les nations elles-mêmes, que symbolise l'Égypte. Les plus lointaines sur le plan géographique, comme aussi les plus lointaines sur le plan spirituel. Le plan de Dieu ne le dépasse sans doute plus qu'il ne l'imagine, mais il sait qu'il peut compter à présent sur une famille unie et solide et des promesses sûres de la part de Dieu. C'est ce qui transparaîtra d'ailleurs dans la dernière paracha de la Genèse. En attendant, il l'exprime de manière assez inattendue dans ce passage de Genèse 46, verset 27. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Ça, c'est ce que nous avons en français. Évidemment, le terme 70 a dans la pensée prophétique un symbole de totalité des nations du monde. Et ce verset indique donc ce rapport en galoute d'Israël avec l'ensemble des nations et pas seulement un endroit plus restreint en Égypte. Le total des personnes est en hébreu au singulier, nefesh. Une personne, nefesh, et non nafshim, qui serait un pluriel. Mais en hébreu, on a au singulier. Cela signifie que l'âme de Jacob est une et que sa famille, quoique composée de 70 individus, demeure une dans une unité retrouvée. Alors, on en arrive quand même au terme de notre étude. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour ce matin. Ceci dit, il apparaît clairement que le message de Joseph dépasse largement l'anecdote et les leçons éthiques qui peuvent parfois ressortir de manière assez évidente. Dieu a permis que Joseph soit rejeté par ses frères, vendu pour être en définitive une source de salut pour toutes les nations alentour. Et ce n'est qu'ultérieurement, alors qu'ils reviennent pour la seconde fois en Égypte, que les frères de Joseph reconnaissent enfin en lui leur sauveur et maître. La comparaison avec le Mashiach Yeshua est assez frappante, évidemment. Yeshua, lors de sa première venue, n'a pas été reconnu par ses frères. Bien au contraire, ils ont même, selon un texte du prophète Ésaïe, été empêchés de le reconnaître. Leur rejet a été une bénédiction et une source de salut pour le monde entier. Revoyez Romains 11 à ce sujet. Mais en définitive, ils reconnaîtront celui qu'ils n'ont pas connu et qu'ils avaient méprisé et outragé. Paul souligne même que cette reconnaissance finale serait comme une résurrection d'entre les morts. Le récit de Joseph nous invite à avoir un regard posé sur les perspectives du monde à venir, tout en étant rayonnant dans le monde présent. La mezouza, vous savez, ce petit boîtier qu'on fixe dans les familles juives sur les linteaux des portes, la mezouza nous enseigne à garder notre intérieur, l'intérieur de notre maison, mais au-delà, c'est notre cœur, pur et sans reproche. Hanouka, qui est une fête que nous fêterons à partir de la semaine prochaine, le 17. Hanouka est là l'inverse, une invitation à faire briller notre lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Vraiment, la Hanouka qu'on allume jour après jour est posée près d'une fenêtre pour qu'elle se voie de l'extérieur. Eh bien, qu'on puisse retenir toutes ces paroles et continuer à méditer cette paracha à l'approche de Hanouka.